Vous avez entendu l'évangile d'aujourd'hui? Et qui nous met encore dans qui prolonge cette orientation vers le carême et vers Pâques. Et cet évangile a pour but essentiel de nous remettre en face de nos responsabilités. Que faisons-nous sur terre? La tentation humaine est de penser que nous avons quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, pas quelques siècles, mais éventuellement un gros siècle. Pour les malchanceux, qu'il faut passer le moins mal possible, ou même éventuellement le mieux possible. C'est notre tentation à tous, mais c'est un enfer. C'est le contraire de la vie. La vie ne nous a pas été donnée pour jouir des biens qu'on appelle matériels, des biens humains, si vous voulez, pendant quelques années, d'autant plus qu'entre deux, il y a quand même quelques pépins éventuellement, quelques tuiles, quelques difficultés qui font que la vie n'est pas qu'une partie d'amusement. Mais cette vie-là nous a été donnée comme un récipient pour le remplir d'une vie éternelle, de remplir de la vie éternelle. Dieu nous a donné ce don incroyable de nous créer pour la vie éternelle. Et nous, la plupart du temps, notre tentation est d'en faire une vie temporelle. C'est une catastrophe. C'est une révolution. C'est une mort. Et croyez pas que je cherche ces mots pour vous faire peur, pour forcer quelque chose, mais là est le tragique de notre vie. Tellement tragique qu'on ne s'en aperçoit même pas. On se laisse aller, tous. Hein. C'est notre tentation à tous. Mais on se laisse aller. Et finalement, on oublie Dieu. Et l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle essentiellement que nous sommes en marche vers la vie éternelle. Et que la manière dont on utilise la part de temps qui nous est allouée sur cette terre, sur cette gestation d'un temps, somme toute très, très limité, n'est qu'une préparation, n'est qu'une gestation, n'est qu'une une formation qui doit s'épanouir, qui va s'épanouir au-delà de cette vie-là, au-delà de la vie terrestre, qui doit s'épanouir pendant ce temps-là même, au-delà de la vie purement humaine, physiologique, psychologique, affective, mais qui va s'épanouir aussi en plénitude dans ce qu'on appelle dans le royaume des cieux, c'est-à-dire après le passage de la mort. Et si nous ne mettons pas toutes nos forces à chercher dès aujourd'hui ce royaume de l'au-delà, notre vie est vaine et stérile. Et quand on va se réveiller de l'autre côté par la résurrection, on va se trouver non préparé et on va se trouver vide. Certes, nous sommes tous des vases, nous sommes tous des pots à confiture. Et par définition, le pot est fait pour contenir quelque chose ou quelqu'un. Et ce quelqu'un, ce n'est autre que la lumière divine, que la grâce de Dieu, l'Esprit Saint, la Trinité tout entière. Et cette Sainte Trinité se donne, veut remplir tous les pots, qu'elle a créé. Excusez-moi de l'image un peu triviale. Mais si le pot reste fermé, il a beau être baigné de lumière, la lumière rentrera jamais dedans. Et notre vie sur Terre consiste à collaborer avec la main du Saint-Esprit qui vient dévisser le pot pour que la lumière ou la vie rentre dedans. Notre oubli de Dieu, auquel l'évangile d'aujourd'hui voudrait venir compenser, venir rappeler la conversion par rapport à ça, l'oubli de Dieu est une pas simplement une apostasie, c'est pas un manque de foi. Même les démons ont la foi. On a vu le diable professer la divinité du Christ, mais c'est pas ça qui l'a sauvé. C'est pas simplement qu'il faille avoir une foi juste, une foi droite. Il faut encore ouvrir le pot de notre égoïsme, le couvercle, pardon, de notre égoïsme, pour laisser pénétrer en nous la grâce de Dieu et le remplir pour que le pot ait vraiment sa forme corresponde à sa fonction et que lui-même devienne, que lui-même disparaisse pour ne mettre qu'en valeur ce qui est à l'intérieur. Et dans le même évangile, pour nous faciliter la tâche, le Seigneur nous montre quel est le moyen de rompre, d'ouvrir ce couvercle d'égoïsme. C'est d'apprendre à aimer. Pas d'apprendre à aimer affectivement, ça on en est tous plus ou moins capables. On le mélange aussi avec de l'anti-amour, mais enfin, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Mais le véritable amour, l'amour qui est capable de remplir le pot, cette dépossession de soi, cette volonté dans les petites choses, comme dans les grandes d'ailleurs, de préférer la volonté de l'autre, de supporter l'autre, d'adopter la pensée de l'autre, d'accepter les goûts de l'autre, d'accepter les travers de l'autre. Tout cela est un moyen d'ouvrir son cœur et d'apprendre à aimer gratuitement. Pas aimer pour avoir quelque chose, pas aimer pour faire plaisir, mais aimer tout simplement. Aimer les autres, aimer ce que Dieu donne. Il fait beau aujourd'hui, on rend grâce à Dieu, on aime Dieu parce qu'il fait beau. Mais demain, il pleut, ça m'est moins agréable, mais je rends grâce à Dieu aussi parce que finalement j'aime. Et que ce n'est pas mon intérêt, ce n'est pas ma jouissance, ce n'est pas mon plaisir qui dicte mon amour. C'est cela que veut dire. Vous qui m'avez nourri, visité, habillé, de qui s'agit-il dans l'évangile? Il ne s'agit pas simplement d'aller donner 1 euro à un mendiant sous le porche de Notre-Dame du Port avec un verre de vin qui va lui brûler l'estomac. C'est des anecdotes auxquelles je fais allusion, évidemment. Il ne s'agit pas simplement d'aller visiter notre voisin qui est malade et qui est à l'hôpital, bien sûr. Même les païens peuvent le faire. C'est élémentaire, c'est que normal. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est de l'attention, mais ce n'est pas de l'amour. visiter le Christ, visiter les pauvres, donner à manger à celui qui a faim, c'est s'intéresser, s'ouvrir à celui qui est à ceux, on n'est pas isolé, qui sont à côté de soi, mais pas par utilité pour eux, mais par ouverture d'esprit. C'est pour cela que le plus sublime des commandements de la charité, c'est d'aimer ses ennemis. Parce que aimer celui qui ne nous aime pas, ou celui qui nous gêne, celui qui nous déplaît, celui qui nous est antipathique, aimer celui-là, c'est un amour sans intérêt. Je l'aime parce que j'aime. Dieu ne nous a pas demandé d'être efficaces dans notre charité. Il nous demande simplement d'ouvrir notre cœur. Et à cela s'opposent toutes les tentations, toutes les pensées utilitaires qui nous assaillent pour nous faire perdre de vie la présence de Dieu. On est accaparé par nos besoins matériels, par nos soucis de carrière, par nos soucis sociaux, le gasoil qui augmente, et bien d'autres choses que je ne voudrais pas décrire aujourd'hui, par toutes les rumeurs qu'on entend, qui nous troublent. Pourquoi nous troubler? Ces troubles-là sont, si je puis dire, justifiés par l'histoire, par le monde dans lequel nous sommes, mais nous sommes dans un monde malade. On ne peut pas lui demander autre chose. Mais nous, parce que nous connaissons l'amour du Christ, l'amour de Dieu, nous devons être au-dessus de cela. Non pas pour regarder tout le monde du haut de notre grandeur et avec des jugements comme si ça ne nous touchait pas, mais en souffrant avec tous. Mais en ayant toujours en vue l'action de Dieu à travers tout ça, sans nous laisser avoir, sans nous enfermer toujours dans la pâte, dans la glaise, dans la boue de ce monde. Ne soyons pas hypocrites. Nous avons chanté tout à l'heure, déposons tous les soucis de cette vie. Ce n'était pas simplement le temps du chant du polyalé, du Kérubicon. C'est déposons tout aussi vite, tout le temps. Il faut déposer tout souci. Vous entendez des guerres, vous êtes dans la. On parlait dimanche dernier du mensonge dans lequel on est de tous les côtés, de toutes parts, en dehors de l'Église, dans le monde, partout. On est entre nous, il y a du mensonge, il y a de la haine. Et alors? C'est normal, ça. Je ne dis pas que ce soit bon, mais c'est normal. Mais nous sommes chrétiens, nous sommes le Christ. Si nous sommes le Christ, nous souffrons comme le Christ, nous descendons dans une forme de kénose, nous descendons dans la pâte du monde, nous souffrons avec ceux qui souffrent. Nous prenons pitié de ceux qui sont dans la peine. Mais nous réservons notre jugement. On peut avoir une analyse, mais on réserve notre jugement, nos passions, si vous voulez, pour essayer de voir comment, à travers tout ça, l'œuvre de Dieu s'accomplit et comment la gloire de Dieu vient dans le monde. Ça devrait nous être facile. Je bats ma coule pour des gens ça beaucoup plus, c'est pas moi qu'à vous, mais enfin, ça devrait nous être facile. On est habitué à ça. Tous ceux qui nous ont précédés, on les a vus jeunes. On les a vus mûrir, on les a vus vieillir, on les a vus se décrépir et on les a vus mourir. En voilà une perspective. Et pourtant, nous savons, nous, qu'ils ressuscitent. Et nous savons qu'ils sont encore vivants d'une autre manière. Donc on est habitué à cette décrépitude. à cet anéantissement qui n'est pas un anéantissement, qui est le passage d'une vie à une autre. Et dans l'histoire de notre monde, dans l'histoire historique, dans la politique, si vous voulez, dans l'histoire de nos familles, dans l'histoire de nos professions, dans toutes nos, nous sommes habitués à ça, de voir que les choses ne marchent pas comme on voudrait qu'elles marchent idéologiquement ou idéalement, plus exactement. Et pourtant, nous savons, parce que nous nous accrochons à l'Évangile, c'est-à-dire nous attachons au Christ, que à travers cela, Dieu fait son œuvre. Et si nous voulons être parmi les sauvés dans le royaume des cieux, suivant le dernier verset de l'Évangile que nous avons lu tout à l'heure, il faut déjà nous transposer là-dedans et répondre au malheur des uns et des autres par une réelle compassion, mais par un état de paix intérieure qui n'est pas une paix psychologique, j'en ai rien à faire, il faut juste ça, mais par une paix qui nous vient de la foi que Dieu est à l'œuvre et qui sauve le monde, même ceux qui sont malades, c'est-à-dire même nous. Comment acquérir ça? La première chose, c'est par la fréquentation de Dieu. Comment voulez-vous lui ressembler? Comment voulez-vous recevoir ses dons, son amour, si on ne l'approche pas? C'est pour ça, je ne fais pas de la réclame pour notre chapelle, pour une réclame numérique, c'est-à-dire de nombre, mais il est indispensable d'avoir hebdomadairement et quotidiennement un temps de relation privilégiée avec Dieu. Un mari qui ne voit jamais sa femme ou une femme qui ne voit jamais son mari, quel amour il peut y avoir entre deux? Bon, aujourd'hui, je sais bien qu'il y a Internet et les SMS qui peuvent passer d'un pays à l'autre, mais enfin, avouez que c'est une forme d'amour un peu, qui peut témoigner de quelque chose. Mais c'est pas l'idéal. Et l'amour de Dieu n'est pas un amour qu'on invente. L'amour de Dieu est un amour qu'on sent. Un amour qu'on expérimente. Et pour expérimenter cet amour-là, il faut se plonger dedans. Nous, occidentaux, nous avons été habitués aux commandements de Dieu, les 10 commandements de l'Ancien Testament, et aux commandements de l'Église. Et c'était un péché mortel, dans notre monde occidental, quand il y avait cette catégorie-là, de ne pas aller à la messe le dimanche. Il faut bien faire peur un petit peu aux gens pour les forcer à faire quelques efforts. Mais là n'est pas l'idéal. Cependant, il y avait une sagesse derrière cela. Non pas de mettre cette faute-là comme un péché mortel. Ce n'est pas de l'ordre du péché, mais c'est de l'ordre du vide, c'est de l'ordre du néant. Le Christ ressuscite chaque dimanche. Enfin, je ne vais pas dire qu'il ressuscite de nouveau chaque dimanche. Et chaque dimanche, il nous est donné de reparticiper à la mort et résurrection du Christ. Tous les jours, d'ailleurs. Et nous, on s'occupe de faire notre partie de pétanque, d'aller à la pêche, de faire du ski, ou, enfin, je ne sais pas quoi vous inventez. Enfin, toutes les futilités de la vie utile pour un équilibre, mais on en fait un idéal, si vous voulez, on s'y attache. C'est ça la difficulté, c'est pas de le faire, c'est de s'y attacher. Par contre, on oublie, on n'a pas le temps, on prend comme accessoire notre relation avec Dieu. Si l'expérience de l'Église mais à notre disposition cet évangile-là, c'est justement pour nous réveiller, pour nous permettre de prendre, de faire un retournement, de nous rappeler la présence de Dieu et de nous rappeler l'urgence qu'il y a à le rencontrer. On vient d'avoir les chocs sanitaires que vous savez. Il y a d'autres chocs militaires que vous connaissez aussi. Est-ce que vous savez, les uns et les autres, si dans 8 jours, nous pourrons encore nous rencontrer ici? Je le souhaite, vous serez les bienvenus. Je le pense un petit peu, mais on n'en a pas la certitude. Personne ne peut en avoir la certitude. Je me souviens que quand j'avais 15 ans, un prêtre professeur, pour nous rappeler à peu près, et dans d'autres vocabulaires, ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, nous disait, pour solliciter notre attention, est-ce que vous savez, est-ce que tout le monde d'entre vous sait, à conscience, je ne me rappelle plus, si le bois qui servira à son cercueil est encore debout, l'arbre qui servira à son cercueil est encore debout. 8 jours après, il y avait un de nous qui était dans un cercueil. Il en avait 15 ans. Et c'était inattendu. C'était un garçon en pleine santé. Il ne s'agit pas d'avoir peur. Je ne dis pas ça pour vous faire trembler. Mais je veux dire, je prends cet exemple-là pour dire, c'est urgent de nous convertir. Je sais, la vie paraît longue. Quand on a 70 ou 80 ans, la vie nous paraît courte. Mais quand on en a 20 ou 30, on a l'impression qu'elle va être longue. Mais elle n'est pas longue. Elle n'est pas longue. Tout passe très très vite. Et ce qu'on n'a pas le temps de faire tout de suite, on n'aura pas le temps de le faire après. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut se remuer. Je ne vous prêche pas en disant ça pour que vous deveniez tous moines et moniales et que vous abandonniez le monde et tout ça pour. Hein. Mais je prolonge le message de l'évangile en lui disant convertissez-vous, le temps est proche. Convertissons-nous, parce qu'on est tous dans la même galère. C'est-à-dire, dépêchons-nous de mettre la priorité sur ce qui est prioritaire. Et non pas sur ce qui est accessoire. Faites pas le calcul pour me faire plaisir, mais regardez combien de temps par jour on passe à nos soins corporels. Entre le brossage des dents, le coup de peigne, ben je ne vais pas tout décrire, hein. Je vous laisse à chacun le soin de savoir ce que vous faites. Y compris la préparation de votre repas et le temps pour prendre le repas et brosser vos chaussures, etc. Regardez le temps que nous passons à ces choses matérielles qui ne servent à rien, sauf éventuellement de ne pas empester son voisin, ce qui est déjà un acte de charité. Et le temps que nous passons pour la vie spirituelle. Ce qui serait élémentaire, c'est qu'on passe au moins le même temps. Au moins. Vous allez me dire, c'est impossible. Oui, c'est impossible si on considère que le même temps devrait être passé à genoux devant ses icônes, la Bible en main, en train de lire les psaumes. Effectivement, ni les uns ni les autres n'avons le temps de ne pouvons le faire. La journée serait trop courte. Mais nous pouvons apprendre à être en présence de Dieu en permanence. Même d'ailleurs en faisant 2 choses à la fois. On peut se brosser les dents et penser à Dieu en même temps. Et pas simplement voir si les mailles brillent. Ou si le rimmel cache l'œil au beurre noir. C'est à cette condition-là que notre carême, aura un sens. Et c'est cette révolution-là, ce retournement-là, qui est déjà une participation au phénomène, si je peux l'appeler comme ça, le phénomène pascal. C'est-à-dire à ce passage de la mort, à travers la mort, à la vie, d'une vie à une autre vie, qui est la même vie, mais sous une autre forme. Et ceci ne doit pas nous amener du pessimisme. Au contraire, ceci doit engendrer la joie, le bonheur, la liberté. Vous vous rendez compte, on se morfond, tout d'un coup, le temps passe vite, on n'a pas le temps de tout faire, mon voisin m'aime pas, les gosses m'ont encore cassé mon rosier, je ne sais quoi encore, faire caricature. On passe tout ce temps-là à ce moment, mais si on apprenait à aimer, quel paradis ce serait ? Ça ne changerait pas la méchanceté est toujours la méchanceté, on aurait toujours la même souffrance, mais on peut souffrir et aimer. Il faut apprendre à se dépasser, il faut apprendre à vivre avec Dieu. Dieu n'est pas un être qui nous donne des devoirs, c'est un être qui nous apprend à être libre et qui nous donne ce qu'il est. Nous chantons au début de l'orthros, le Seigneur est Dieu, il nous est apparu. Certes, il nous est apparu il y a 2000 ans. Il nous est encore apparu, c'est encore révélé avec l'Esprit Saint, qui, soit dit en passant, est votre expérience quotidienne. L'Esprit Saint, c'est votre expérience. Tout ce que vous découvrez, tout ce que vous sentez, tout ce que vous percevez, tout ce que vous devinez sur la foi, dans votre relation avec Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vous le donne, librement. Vous préféreriez avoir des révélations, des visions, et ça. C'est pas comme ça qu'il s'y prend. Il veut s'y prendre avec le fond de nos tripes. Le fond de notre cœur. Mais ce don-là, cette transformation-là, nous fait passer de l'image de Dieu à laquelle il nous avait conformés, à sa réalisation, à sa ressemblance, c'est-à-dire que l'image du visage de Dieu que nous recevions comme dans un miroir, doit petit à petit s'animer avec notre liberté, c'est-à-dire en ouvrant le pot, la confiture dont je vous parlais, le couvercle du pot dont je vous parlais tout à l'heure, en ouvrant cette liberté, de manière à ce que l'Esprit-Saint puisse agir en nous pour quelque chose dans un domaine sur lequel nous sommes impuissants. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais avant tout, il faut y croire, il faut être sûr que Dieu intervient, il faut dire en toute vérité, le Seigneur est Dieu et il nous est apparu, pas simplement il y a 2000 ans, mais tout de suite, tout à l'heure à la liturgie, il nous est apparu, tout de suite pendant que nous prions, il nous apparaît, tout à l'heure quand nous serons à table, quand on ira faire du bowling ou à la pêche, le Seigneur peut nous apparaître encore. Tout du moins, on peut s'ouvrir à l'apparition de Dieu. C'est indispensable. Si on ne le fait pas, on est mort. Et ça presse. À lui, sous la gloire, dans les siècles des siècles. Amen.